Il est difficile aujourd'hui d'écouter les informations et de garder un esprit positif. On nous parle de catastrophes les unes après les autres. Ici, c'est une guerre, ici, c'est une révolution, ici, c'est un tsunami, là-bas, c'est un tremblement de terre, ici, ce sont des inondations, là-bas, ce sont des feux. Ça n'arrête pas. En réalité, quand on a fini de raconter l'un, l'autre s'est déjà produit et c'est un cycle qui ne s'arrête jamais. Certaines personnes arrêtent maintenant d'écouter les informations parce qu'ils savent déjà à l'avance ce qu'on va dire. Une catastrophe après l'autre, un malheur suit un autre. Il est difficile parfois de garder l'esprit serein quand on voit dans le monde autour de nous, tout autour de nous, se développer les signes des temps. Chacun d'entre nous, chaque semaine, se trouve confronté à des difficultés que nous rencontrons à l'école, au travail, dans notre famille, à droite, à gauche. Nous sentons entourés de difficultés de toutes sortes. En réalité, ces difficultés qui sont dans le monde ou qui sont dans notre entourage proche ne sont que le reflet du grand conflit entre Christ et Satan, de cette grande guerre dont nous parlent les Écritures, qui va durer jusqu'à la fin des temps, où l'ennemi, le diable, s'oppose à Dieu dans tout ce qu'il fait. Ce sont là les conséquences, les retombées de cette grande lutte dans laquelle finalement nous sommes tous aussi impliqués les uns et les autres. Ainsi, il n'est pas difficile de voir autour de nous les difficultés, de voir le mal. Et quand on y réfléchit, on se rend compte que le mal ne se trouve pas tout autour de nous seulement, il se trouve aussi au-dedans de nous. Quand on regarde dans notre cœur, on y trouve aussi beaucoup de choses que nous n'aimerions pas y trouver. Le prophète Amos, dans son livre, présente cette situation-là de son temps aussi. Dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3 et au verset 11, il dit ceci, et permettez que je le lise dans une version plus littérale que celle que vous avez peut-être entre vos mains aujourd'hui. Dans le livre d'Amos, au chapitre 3 et au verset 11, il est dit, C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. L'ennemi est tout autour du pays. Il abattra ta force et tes palais seront pillés. L'ennemi est tout autour. C'est un mot que l'on retrouve souvent qui est employé ici. C'est le mot saviv que l'on retrouve dans l'Ancien Testament à maintes reprises pour exprimer cette idée, tout autour. On retrouve par exemple ce mot dans cette expérience que vous connaissez qui est rapportée dans le deuxième livre des Rois au chapitre 6. Où il est question du prophète Élisée qui se trouve à Dothan. Le matin, son serviteur se lève et quand il sort, il se rend compte que les armées syriennes ont fait le siège du village où il se trouve. Alors il se tourne vers Élisée et lui dit « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Parce que les armées syriennes sont tout autour de la ville. Et vous connaissez cette histoire, Dieu va ouvrir les yeux du serviteur et va permettre qu'il puisse voir les armées de l'Éternel encore plus nombreuses, elles aussi tout autour du village. Cette question que le serviteur du prophète pose est une question que nous nous posons souvent aujourd'hui. Seigneur, qu'allons-nous faire? Comment allons-nous nous en sortir? Le prophète Amos veut apporter dans son temps la solution, la réponse de l'Éternel à cette question. Amos va commencer à décrire la situation de son temps. Amos veut interpeller ses contemporains et les inviter à revenir à Dieu. Mais il va décrire d'abord la situation dans laquelle se trouve le peuple de Dieu en réalité. C'est une époque de prospérité. Amos vit environ 750 ans avant Jésus et il s'adresse au royaume du Nord, au royaume d'Israël. Ésaïe, le prophète que nous connaissons un peu mieux, est son contemporain. Il va prêcher au royaume du Sud, au royaume de Juda, à la même époque. Amos est un homme qui, bien qu'il soit berger et cultivateur d'origine, a un grand talent de prédicateur. Il va utiliser dans son texte une structure particulière pour attirer l'attention de ceux qui l'écoutent. Vous connaissez le chiffre 7 qui est utilisé souvent dans les Écritures et qui a un sens particulier dans la littérature hébraïque. Mais Amos, lui, va utiliser 7 plus 1 Regardez par exemple dans le chapitre 1er du livre d'Amos. Amos va transmettre des sentences de la part de l'Éternel sur plusieurs peuples voisins d'Israël. Si vous prenez le chapitre 1er, au verset 3, il va commencer par s'adresser aux Syriens. Et il va dire, par exemple, à cause des 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. C'est la première sentence. Et puis la deuxième est au verset 6, où il va parler cette fois-ci aux Philistins. Et il va dire à cause des 3 crimes de Gaza, et même de 4. Le troisième jugement ici est prononcé contre les Phéniciens. C'est au verset 9, où il va s'adresser à la ville de Tyr. Le quatrième jugement est ici prononcé contre Édom, les descendants d'Ésaü. C'est au verset 11. Au verset 13, il va s'adresser aux fils d'Ammon, qui sont les descendants de Lot. C'est la cinquième sentence. Au chapitre 2, il va s'adresser aux Moabites, qui sont aussi des descendants de Lot. C'est la sixième sentence. La septième va s'adresser à Juda, le peuple du sud, au verset 4. Et la huitième, la septième plus un, s'adresse justement à son peuple, le peuple d'Israël. Et il dit, à cause des 3 crimes d'Israël, et même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. 7 plus 1. Maintenant, si vous regardez ce qui se passe exactement, peut-être avec une carte, vous allez vous rendre compte que Amos est en train d'apporter des sentences de la part de Dieu pour tous ceux qui sont autour du peuple d'Israël. C'est ce qu'il avait dit au chapitre 3. L'ennemi est tout autour. Et dans la huitième sentence, il est en train de dire, l'ennemi n'est pas simplement tout autour, l'ennemi est au milieu de toi, l'ennemi est en toi, parce que Dieu s'adresse aussi à son peuple d'Israël. 7 plus 1. En effet, quand on regarde le monde, quand on regarde la situation aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement l'ennemi est tout autour et au-dedans. L'ennemi est sa vive. Amos va continuer son message. Il a quelque chose à dire à son peuple. Et il va parler à son peuple de la même manière. Il va essayer de les prendre par surprise avec 7 plus 1. Un petit peu plus loin, au chapitre 3 de son livre, il va reprendre la même structure pour essayer de faire comprendre que le message de Dieu est clair et vrai. Il va utiliser 7 questions rhétoriques plus une. 7 questions rhétoriques. Une question rhétorique, c'est une question que l'on pose dans laquelle la réponse est déjà incluse. Si je vous dis par exemple, le temps n'est pas formidable aujourd'hui, n'est-ce pas? La réponse est évidente. Non, vous avez raison, il ne fait pas beau. Si je vous dis par exemple, quel temps merveilleux aujourd'hui, ne trouvez-vous pas? Oui, bien sûr, c'est une question rhétorique. La question contient la réponse. Et ce sont des questions de ce genre que Amos va poser à son peuple pour faire comprendre que le message de Dieu est aussi clair que ça. Regardez par exemple au chapitre 3, au verset 2. Première question, deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Mais non, bien sûr que non. Deuxième question, le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Mais non, bien sûr que non. Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? Mais non, bien sûr que non. L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège et le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien de pris? Mais non, bien sûr que non. Cinquième question. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Mais non, bien sûr que non. Sixième question. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Mais non, bien sûr. Et là, Amos nous prend par surprise. Au lieu de poser la septième question, c'est une affirmation qu'il fait. C'est le message tout aussi logique qu'il veut donner à son peuple, car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Cette déclaration est tout aussi logique que la réponse à donner aux questions suivantes. Et puis il continue par la huitième. Verset 8. Le lion rugit-il, qui ne s'effraierait? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétiserait? Le message que Amos veut transmettre est clair et il le dit. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu parle. Est-ce que vous l'entendez? C'est ce qu'il dit à son peuple. Et de plus, Dieu ne nous prend jamais par surprise. Dieu nous prévient. Dieu nous dit les choses à l'avance. Il nous donne ses secrets. Et remarquez, fait comprendre le prophète Amos, Dieu parle par ses prophètes. Est-ce que vous l'entendez? Amos essaye d'interpeller son peuple parce que Dieu parle. Dieu veut parler. Dieu veut s'adresser à son peuple. Dieu veut être entendu de son peuple. Et Amos lui dit, est-ce que vous l'entendez parler? Est-ce que vous l'entendez quand les prophètes vous parlent? Parce que c'est par eux que Dieu parle. L'entendez-vous? Le temps ne nous permet pas ce matin d'analyser tout le message du prophète Amos, mais j'aimerais relever juste deux ou trois versets avec vous, symptomatiques de ce qu'il veut transmettre à son peuple. Un peu plus loin, au chapitre 5 et au verset 4, Amos parle. De la part de l'Éternel, il dit ceci. Amos, chapitre 5, verset 4. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. » Une invitation à rechercher l'Éternel, à rétablir une relation particulière avec lui. Et quelques versets plus loin, au verset 14, il dit « Recherchez le bien et non le mal afin que vous viviez. » Et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Finalement, ce que Amos propose à son peuple, c'est un réveil dans la relation avec son Dieu, et une réforme, recherchez le bien, non le mal, agissez comme il convient. Un appel au réveil et à la réforme. Le malheur, c'est que Dieu parle, mais souvent les hommes n'écoutent pas. Et lorsqu'enfin ils sont disposés à écouter, c'est trop tard. Dans le même livre qu'il écrit Amos un peu plus loin, au chapitre 8, parle à son peuple et l'invite à écouter lorsqu'il en est encore temps. Amos, chapitre 8, au verset 11, il est écrit ceci. « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la famine du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'Orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne la trouveront pas. Une famine, une soif de la parole de Dieu. Mais dit le prophète, à ce moment-là, ce sera trop tard. Ils ne la trouveront pas. Vous entendez, bien entendu, dans ce passage, quelque chose qui nous rappelle ce que nous savons de la fin des temps. Où, apeurés par les conséquences de leurs actions, les hommes chercheront la parole de Dieu. Mais en fait, ce sera trop tard. Ce ne sera pas quelque chose qui viendra du cœur. Ce sera trop tard. Amos est en train de dire, Dieu parle maintenant. Il parle par ses prophètes, écoutez-les, répondez à l'appel de Dieu maintenant parce qu'un jour, ce sera trop tard. Amos s'adresse à son peuple de cette manière en s'exprimant par ce schéma de 7+1 parce qu'il veut attirer l'attention de ceux qui l'écoutent pour leur dire, écoutez maintenant, ainsi parle l'Éternel. Cette structure de 7+1, nous la connaissons aussi dans le Nouveau Testament. Vous vous souvenez comment Jésus va s'adresser aux gens de son temps? Dans Matthieu chapitre 23, nous avons 7+1 condamnation où Jésus s'adresse aux scribes et aux pharisiens, il leur dit, scribes et pharisiens hypocrites. Il y a 7 plus une sentence que Jésus prononce. Et puis, on est habitué aussi parce que Jésus va utiliser la même formule dans ce que nous appelons les béatitudes. Il va avoir 7 béatitudes plus une. Une manière de souligner l'importance du message qu'il veut apporter. C'est comme si, finalement, il était en train de dire, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Le mal est tout autour. Le mal est sa vive, et puis il est aussi au-dedans de nous. Ainsi, Amos adresse déjà dans son temps cet appel. Revenez au Seigneur. Vivez un vrai réveil et une véritable réforme, et le Seigneur sera avec vous. Et si vous sentez tout autour de vous l'ennemi et le malheur, et que vous découvrez qu'en plus il est à l'intérieur, à ce moment-là, le Seigneur va apporter sa solution à ce problème-là. Cette solution, elle est indiquée dans plusieurs passages des Écritures. Elle vient avec une force particulière dans ce texte qui se trouve dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 2. Zacharie, chapitre 2. Au verset 4 et 5, se trouve là la solution que Dieu veut apporter à ce problème, tout autour et au-dedans même de nous. Zacharie, chapitre 2, au verset 4, il est là question d'une vision que le prophète a, dans laquelle les anges s'entretiennent avec lui. Et il est dit, et lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude des hommes et des bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. La solution que Dieu veut apporter au problème qui est décrit par Amos, c'est que Dieu veut remplacer les ennemis qui sont tout autour par sa présence, et Dieu veut remplacer l'ennemi qui est au-dedans par sa présence et par sa gloire. Si nous nous sentons aujourd'hui dans cette situation-là, si nous nous sentons entourés par le mal de toutes parts, et que nous le découvrons en plus au-dedans de nous, la solution que le Seigneur veut apporter, c'est de remplacer l'ennemi par sa présence, de nous entourer de sa présence, d'être, comme il le dit, une muraille de feu autour de nous, et d'être sa gloire dans nos cœurs. Voilà la solution que le Seigneur propose. Déjà, dans ce temps-là, c'est la solution que le Seigneur propose aujourd'hui. D'autres passages des Écritures nous rappellent comment Dieu veut intervenir pour chasser l'ennemi et le remplacer. Regardez par exemple ce qu'il est dit dans le psaume 125. Psaume 125, versets 1 et 2. Il est écrit ceci. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. C'est la solution de l'Éternel. Il veut nous entourer pour toujours. Et puis vous connaissez aussi ce passage dans le psaume 46. Psaume 46, le verset 5 et 6, où il est dit, psaume 46, versets 5 et 6, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Dieu est tout autour et Dieu est au milieu de nous. » C'est d'ailleurs le nom que Jésus lui-même va prendre pour indiquer à quel point il veut être non seulement au milieu de nous, mais en nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Depuis la sortie du jardin d'Éden, la communication directe entre Dieu et ses enfants n'est plus possible. Le péché a coupé cette relation. Cependant, Dieu veut continuer à communiquer avec l'homme. Dieu veut lui donner les armes nécessaires pour combattre dans ce grand conflit. Jésus, d'ailleurs, lorsqu'il est venu parmi nous, s'est retrouvé aussi dans cette situation où l'ennemi était tout autour de lui. Et il a vaincu par deux armes qu'il nous laisse. Sans reprendre les détails de cette histoire que vous connaissez, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 4, il nous est rapporté ces trois tentations que Jésus va subir de la part de l'ennemi. Et vous vous souvenez quelles sont les armes que Jésus va utiliser. Lorsque l'ennemi vient, Jésus a déjà passé 40 jours de jeûne et de prière avec son Dieu. C'est la première arme que le Seigneur nous a donnée. C'est celle qu'il a employée. Et puis la deuxième, lorsque le diable s'adresse à lui, il lui répond, « Il est écrit ». C'est la parole prophétique. Jésus va répondre en utilisant l'esprit de la prophétie, comme une arme, comme une épée. Et c'est ainsi qu'il va fermer la bouche à l'ennemi à trois reprises. La prière et l'esprit de la prophétie. Jésus voudrait que nous soyons vainqueurs de la même manière. Et nous pourrions nous dire, mais enfin Seigneur, comment veux-tu que je sois vainqueur comme tu l'as été? Est-ce que tu sais qui je suis? Est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Est-ce que tu sais ce que je fais? Est-ce que tu sais ce que je pense? Comment puis-je être vainqueur comme tu l'as été? Et le Seigneur insiste parce qu'il a remporté la victoire sur notre terrain aussi, avec les armes qu'il nous donne. Et ce sont aussi ces deux armes qu'il nous donne aujourd'hui, la prière et l'esprit de la prophétie. Le Seigneur nous propose de les utiliser aujourd'hui pour être vainqueurs comme il a été dans l'attente de son retour. C'est pourquoi Dieu choisit des hommes et des femmes pour parler de sa part et nous révéler ses secrets. Dieu ne fait rien, dit Amos. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et dans le temps où nous sommes, nous avons bien besoin de connaître les secrets de Dieu et de savoir quel est le plan que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. L'entendez-vous par ce moyen-là? Les prophètes jouissent d'une situation tout à fait unique, tout à fait particulière. Et j'aimerais prendre quelques textes dans les Écritures pour nous rappeler à quel point les prophètes sont proches de Dieu. Dieu accepte cette proximité, cette intimité pour les prophètes qu'il s'est choisis parce que Dieu veut encore nous révéler ses secrets. Prenez par exemple avec moi ce texte dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 23. Il est là question des faux prophètes par opposition avec les vrais prophètes. Et là encore, Dieu va interpeller par son prophète Jérémie. Au verset 18, il est dit, Jérémie chapitre 23, verset 18, « Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendue? » Sans aucun doute, aucun d'entre vous, faux prophètes qui parlaient, mais les vrais par contre. Ceux que Dieu s'est choisis entendent sa parole, assistent à son conseil. Dans le même livre de Jérémie, au chapitre 15, au verset 19, il nous est parlé encore de cette situation particulière du prophète. Jérémie, chapitre 15, verset 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Le prophète, nous est-il écrit, se tient devant Dieu. Il devient sa bouche. C'est une situation extraordinaire, c'est une situation privilégiée qui devrait nous faire comprendre quelle est l'importance du ministère que les prophètes ont de la part de Dieu, à notre égard. D'ailleurs, ces prophètes sont tellement proches de Dieu qu'ils ont avec Dieu une discussion souvent efficace. Revenez avec moi dans le livre du prophète Amos. Amos au chapitre 7. Il y a là un passage extraordinaire que l'on peut retrouver à d'autres endroits des Écritures avec d'autres prophètes. Et j'aimerais prendre celui d'Amos parce que nous en avons parlé aujourd'hui. Amos chapitre 7, verset 2. Amos chapitre 7, verset 2. Dieu a prononcé des sentences contre son peuple. Et au verset 2, il est dit: Je dis, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si faible. Et le texte continue: L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le prophète négocie avec Dieu, plaide, intercède pour son peuple. Il lui dit: Jacob est si faible, il ne supportera pas, aie pitié. Et Dieu dit: oui, je ne vais pas le faire. C'est dire à quel point le prophète est véritablement dans le conseil de Dieu. C'est un face-à-face avec Dieu dont nous sommes les bénéficiaires. Le rabbin Abraham Heschel, dans son livre « Les prophètes », écrit ceci. « Le prophète est davantage qu'un messager. Il se tient dans la présence même de Dieu. Il est dans le conseil de Dieu véritablement comme participant et pas seulement comme le commis de Dieu qui lui fait ses courses. Le prophète, c'est celui à qui Dieu révèle ses secrets, c'est-à-dire ces choses que nous ne pouvons connaître que parce que Dieu nous les a révélées et qui sont nécessaires pour que nous puissions traverser les difficultés de la vie et les difficultés de la fin des temps. On comprend alors que Dieu s'est adressé à son peuple dans le désert. Et vous vous souvenez, à un moment, Aaron, Myriam et d'autres se sont rebellés contre Moïse. Et Dieu leur a dit ce qu'il en était des prophètes. Il ajoute: « Pourquoi n'avez-vous donc pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» N'avez-vous pas craint de parler contre les serviteurs de Dieu qui ont parlé dans sa parole ? C'est par eux que Dieu révèle ses secrets. C'est par eux que Dieu parle. Est-ce que nous avons écouté ? Est-ce que nous avons attendu ? Est-ce que nous avons répondu ? Tant qu'il en était encore temps, car Dieu parle, que dit-il ? Il n'est pas difficile de sentir aujourd'hui l'ennemi tout autour de nous, sous différentes formes. Et il n'est pas difficile de sentir l'ennemi au-dedans de nous. Le Seigneur nous propose de prendre part dans ce grand conflit, dans ce conflit dans lequel il a déjà été victorieux. C'est la raison pour laquelle il nous donne des armes. La prière. La prière, la lutte, la discussion, l'entretien avec Dieu comme ces prophètes qui luttaient avec Dieu. Et puis, l'autre arme qu'il nous donne, l'esprit de la prophétie. Si nous sentons l'ennemi tout autour de nous et au-dedans de nous, la parole de Dieu aujourd'hui nous annonce cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a un remède. Son remède, c'est de remplacer l'ennemi, que lui prenne place tout autour de nous comme une muraille de feu et qu'il prenne place au-dedans de nous pour y manifester sa gloire. Que le Seigneur nous donne la grâce d'avoir l'Éternel autour de nous et au-dedans de nous. Amen.